Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des relances?
Effectivement, qui est occulté pour illustration, parce que je rebondis tout de suite, ça, durant toute ma classe, on n'a pas pu l'étudier, c'est à la fin du programme de l'année, donc Rolf très commodément était passé dessus. Alors, une question concernant comment s'organisait la police durant la commune, les régulations. Il y a ça. La question de la propriété, si vous pouviez détailler un petit peu plus, ça peut d'ailleurs s'articuler avec la question sur la police. La question du financement de la commune et de l'impôt, peut-être juste un éclairage.
Que je note.
Je vais les oublier. Hein. C'est pas de mémoire. C'est mauvais pour un historien. Mais bon. Alors, la première question.
C'était sur la police.
La police, oui.
Sur la police.
Après, propriété, oui.
La justice, la propriété, sur l'impôt, je serais assez curieux, dans les scènes que vous décrivez à Versailles avec ces cris de haine, qu'est-ce qui a pu nourrir alors, cette fracture idéologique, peut-être sur... le rôle des médias et la diffusion des médias en dehors de la commune, enfin la façon dont c'est.
Alors d'abord sur la police, comme j'ai dit, c'est assez complexe parce que normalement la préfecture de police est dissoute et la garde nationale doit la remplacer. Mais de fait, c'est pas aussi simple parce que évidemment la police n'est pas supprimée. Les communards ont pris les commissariats et ont installé des commissaires de police à eux. Alors bien sûr, les commissaires de police nommés avant sont partis, ils se sont enfuis ou ils ont été arrêtés pour un certain nombre d'entre eux. La plupart des policiers également. D'ailleurs, tous les fonctionnaires... Versailles a tout de suite, dès le 19 mars, fait une circulaire demandant à tous les fonctionnaires de ne servir en aucun cas la commune. Et par exemple, pour vous donner un exemple, un employé du bureau de poste de la rue d'Aligre, qui avait accepté de travailler pour la commune, a été emprisonné 3 ans pour usurpation de fonctions publiques. Donc, normalement, aucun fonctionnaire n'avait le droit de travailler pour la commune. Ce ne fut pas le cas de certains. Un certain nombre d'entre eux ont accepté. Mais ils prenaient quand même un certain risque. Donc, la police a fonctionné. Des commissaires de police se sont installés, nommés par la commune dans les arrondissements. Et il faut bien dire qu'au fur et à mesure que le combat se durcissait, lorsque les premiers combats ont lieu au début d'avril, il y a un premier combat vers Châtillon, puis d'autres combats vers Levallois, etc. Les communards avaient occupé également tous les forts au-delà de l'enceinte. Hein. Donc la commune s'était déployée dans Paris, mais aussi sur les forts d'Ivry, d'Issy, de Vanves, etc. Pas du côté est, parce que le côté oriental de Paris, c'était les Prussiens. Donc en fait, la guerre entre les Versaillais et les communards allait de Ivry à peu près Saint-Denis, pas tout à fait Saint-Denis. Hein. C'est toute la partie occidentale où toute la partie orientale reste occupée par les Prussiens. On aurait tout un problème de communication pour les communards avec la province, mais c'est autre chose. Donc ils ont maintenu la police, et il faut bien dire que donc après ces premiers combats, ils ont constaté avec terreur que les prisonniers étaient exécutés par les Versaillais. Et donc, ça les a amenés, par rapport à leur politique au début de liberté, à durcir leur façon de faire, à procéder à des arrestations de gens qu'ils considéraient comme suspects, alors que toujours, hein, quand vous commencez à arrêter des suspects, c'est toujours... c'est le cas de toute révolution, vous commencez à arrêter des suspects, c'est jamais facile, ça change la situation, ça se durcit, et vous menacez de les exécuter si on continue les exécutions, donc on rentre dans un face-à-face où une action policière est effectivement présente, notamment les blanquistes par exemple étaient des durs, hein, qui n'avaient pas peur de... qui se référaient volontiers à l'expérience du comité de salut public robespierriste et qui considéraient clairement qu'il fallait établir une dictature et que c'était que comme ça qu'en établissant une dictature qu'on en finirait avec... avec la grande bourgeoisie, hein, et qu'on établirait la République. Donc il y a un courant comme ça, et ce courant est évidemment souvent présent et fait cette action qui va en se durcissant. Donc pour la justice, là, la Commune est très claire. La Commune elle a fait une chose assez extraordinaire, hein. La Commune, elle a brûlé les bois de l'échafaud devant la mairie du 11e arrondissement pour proclamer son opposition à la peine de mort. Bon, vous voyez que c'est quand même des gens qui... Et notre association, il y a quelques années, nous avons fait devant la mairie du 11e, nous avons reconstitué cette opération. Bon, nous n'avons pas refait encore la destruction de la colonne place Vendôme, mais nous ne désespérons pas de le faire. Voilà, donc là, la question de la justice était aussi reprise. Sur la propriété, les communards ne sont pas opposés à la propriété, mais ils la voient souvent sous une forme de propriété associative. J'aurais pu vous amener un texte qui est très, 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 très amusant du Fenouillaz que j'évoquais tout à l'heure, là, le fusillé de Satory de 1872, votre principal communard, qui écrit à un congrès de l'International vers 1868, etc. Ça vous donne une idée de leur qui sont pour la propriété et en même temps. Alors, ils proposent un texte, c'est très 19e siècle, mais bon, c'est intéressant. Ils proposent un texte en disant que en 14 ans, un locataire a largement payé de quoi non seulement le loyer, l'usage, etc., mais aussi l'achat. Et donc il dit que tout locataire depuis 14 ans, etc., devient propriétaire automatiquement de la maison. Voilà, ça c'est très typique de l'époque, hein, comme type de proposition. Hein.
Tu hein. avais dit que Thiers avait supprimé le moratoire sur les loyers.
Oui, oui.
Est-ce que la commune...
Ah oui, ça, la commune le remet, c'est... Les premières décisions de la commune, les toutes premières décisions de la commune, c'est de remettre le moratoire, ce qui lui vaut d'ailleurs, dès mars 1971, une popularité qui explique entre autres cette mobilisation électorale que j'ai évoquée tout à l'heure.
Et la haine des propriétaires,
hein. On parlait de la haine, hein. Tout à l'heure, la haine évidemment des propriétaires par rapport à des vautours, comme on disait, par rapport aux communards qui font qu'ils ne se remplissent pas le tiroir caisse.
Oui, je voudrais sur la commune, là, naturellement, pas sur autre chose. Il me semble a priori que la commune ne pouvait pas se sortir, hein. Elle ne pouvait pas s'en sortir victorieusement du fait qu'elle était coupée de la province. La commune seule apparaît ici. Ah, ça n'était pas possible de sortir victorieux, à mon avis, je crois. Il y a encore un deuxième point, je voudrais simplement signaler. Il y a un film, je ne sais pas si on le connaît, un film magnifique sur la commune, c'est Une journée au Luxembourg,
oui.
Qui était passé sur la il y a une quinzaine d'années que je l'ai passé. Et c'est un film sur justement les crimes, d'une façon, j'ai pas tout à l'heure le mot de boucherie. C'est tout à fait ça. Et c'est à voir, si possible.
Il y a plusieurs très beaux films sur la commune. Il y a aussi le film de Peter Watkins qui s'appelle Commune 1871. Dans ces deux films, les amis de la Commune ont joué, alors on les connaît. Il y a également, alors beaucoup plus ancien, La Nouvelle Babylone, hein, le grand, grand film soviétique des années 20, film d'épopée, hein, on peut dire, hein, d'épopée, mais très très beau. Oui, mais magnifique au plan du cinéma expressionniste. Hein, c'est des plus beaux films du cinéma. Oui, alors, bah, vous savez, c'est puisque la Commune a échoué, c'est qu'elle devait échouer. Hein, ça, voilà. Hein. Après, effectivement, il y a des tas de raisons dans son échec. Souvent, les raisons qui conduisent au succès, parfois conduisent à l'échec. C'est un mouvement très divers. C'est une force. La diversité est une force. Mais cette diversité, quand elle arrive au Conseil de la Commune, alors vous avez là effectivement des blanquistes, des jacobins, des quelques marxistes, quelques des proudhoniens, et tout ça, ça se bagarre quand même pas mal. Hein, comment il faut s'organiser, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et par moments, ça ne rend pas facile. Quand on lit les procès-verbaux, c'est magnifique, hein, de la Commune, qui sont maintenant à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Ils ont été, ils sont en vente illustrés par un dessinateur. C'est très très beau, que vous pouvez vous procurer à la bibliothèque, à la librairie de la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'est rempli de bagarres, quoi, aussi, hein, faut bien le dire. Hein, donc ça rend pas facile. L'isolement, ils l'ont un peu accentué, puisque au fond, ils n'ont pas voulu marcher sur Versailles, hein, puisque c'était pas leur idée. Alors après, ils se sont rendus compte, mais c'était trop tard, hein, quand ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils marchent sur Versailles. Ceci dit, ils sont pas complètement isolés, parce qu'il y a quand même pas mal de communes en province. Hein. Mais c'est pas synchronisé, ça n'a pas été organisé, etc. Mais il y a des communes à Marseille, il y a des communes à Lyon, il y a des communes à Narbonne, à Bordeaux, au Creusot, et encore dans quelques petites villes, il y a eu des soutiens. Parfois ça durait 2 heures, hein. Parfois ça durait plusieurs jours. La commune de Marseille a été très importante. Mais c'est vrai que le pays est encore à 75% rural, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, il y a une France rurale rouge, hein, qui est bien connue dans la démocratie socialiste, en partie un peu dans le Midi et un peu dans le revers occidental et du Massif central, le Limousin, le Berry, des pays comme ça, mais quand même la grande masse des campagnes, ils ont peur, et beaucoup des soldats qui sont des ruraux, les conscrits, hein, parce qu'il y a l'armée de métier évidemment qui est réactionnaire, hein, le colonel Gallifet, le général Gallifet ou le lieutenant-colonel Boulanger, hein, c'est des gens qui sont réactionnaires. Là, il n'y a pas de problème. Mais les soldats, il faut bien dire qu'il y a les ruraux, les soldats ruraux, il y a un argument qui marche pas mal pour eux, c'est que ils veulent plus continuer. Ils voient un peu dans Paris des gens qui veulent continuer la guerre. Et Versailles leur dit, vous voyez, nous, on signe le traité, hein, à vous rentrer chez vous. Hein. Alors que, et donc ils regardent un peu les Parisiens comme des gens qui refusent la capitulation, qui refusent le traité de Versailles et qui pourraient nous amener à continuer la guerre. Et donc ça fonctionne un peu de façon complexe là.
Et les canons, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Pardon ?
Les canons, qu'est-ce qu'ils sont devenus au départ ?
Les canons. Ah ben les canons que les communards, ils les ont mis sur les fortifications, hein, donc dans les différents bastions, où ils les ont mis en réserve dans certains coins. Il y avait des bataillons d'artilleurs de la garde nationale, hein, donc ils s'en sont servis pas très bien, et leur problème c'est qu'il manque assez vite de munitions, de boulets, alors que l'armée de Versailles est approvisionné en abondance, hein, et que dispose. Paris n'est pas un lieu important de production de munitions, de canons, etc. Et de boulets. Donc ils vont assez vite manquer de capacité, alors que les Versaillais vont vite recevoir des productions en masse, y compris par les Prussiens qui commencent à les aider.
Et les gens qui veulent exproprier les grandes capitales, qu'est-ce que c'était les débats dans le commune pour qu'ils ne veulent pas?
Alors il y a un débat par exemple qui a lieu, mais c'est un peu dans des conditions, vous voyez, hein, c'est un peu comme les conditions de cette réunion, je ne vais pas dire, mais c'est un peu ça l'assemblée de la commune. Un des débats par exemple qui a eu lieu, c'était tout simple, c'était déjà la question de la Banque de France. C'était le lieu, premier lieu, qui était une banque privée entièrement, ils ont pris la Banque de France, ils n'ont pas pris la Banque de France, ils ont nommé quelqu'un qui allait être une sorte de surveillant de la Banque de France, qui s'occuperait des finances, qui était relativement modéré et qui n'a pas touché à la Banque de France. Alors c'est assez frappant parce qu'on voit la commune obtenir des prêts. Je ne sais pas moi, de 1 million de francs de la Banque de France, pendant que la Banque de France donne à Versailles 50 millions de francs. Donc évidemment, là, ils n'ont pas vu qu'il aurait peut-être fallu aller plus fortement. Et d'autre part, effectivement, ils ont plus l'idée. Que l'exemplarité devrait fonctionner, l'exemplarité de la de forme de coopérative, etc., devrait fonctionner. Alors là, de ce point de vue-là, ils sont assez éloignés de Marx, mais y a un certain nombre qui disent qu'il faut aller plus loin. C'est débattu, mais ça ne va pas jusqu'à... Il n'y a pas de décret d'expropriation générale du capital, ni même du grand capital, par la commune. Il y a une sorte d'idée qu'on va aller vers une propriété collective, sociale, par l'exemplarité, le juste coût du travail aussi, hein. Ils sont très attachés à l'idée que le travail doit être rémunéré par un salaire qui correspond au travail. Ils sont très conscients déjà que le salaire qu'ils touchent ne correspond pas au travail qu'ils font. Donc il y a bien un sens de l'accumulation du capital, et donc ils réclament des salaires qui correspondent à ce qu'ils estiment être leur travail. Mais l'expropriation générale, ils ne l'ont pas posée, peut-être aussi parce que c'était dans le cadre local de Paris, que ça leur a semblé complexe. L'histoire ne s'est pas achevée.
Parce qu'on peut prendre l'exemple aux grandes capitales.
C'est aussi le reflet de ce qu'était le capitalisme français à l'époque.
Il y a un grand capital quand même,
mais il n'est pas sur Paris. Il n'est pas visible, enfin il n'est pas.
Ah, y en a
c'est
quand
plus
même.
Les formes de propriété dominantes sont plus celles que tu décrivais au début.
Sur Paris, oui, disons, mais il y en a quand même. Il y a quelques grandes entreprises, il y a de quelques milliers d'ouvriers qui fonctionnent à Paris ou des grands magasins, etc. C'est déjà des formes où il y a un capitalisme important, mais c'est vrai qu'il est plutôt en province que à Paris au niveau visible et où.
C'est, oui, Lyon, le Creusot.
Voilà, donc je pense que j'avais noté quelque chose, je ne sais pas si vous avez.
Autre chose, je crois, j'ai lu, si je me rappelle bien, qu'ils ont allé porte à porte et pour voir tout dans Paris, Versailles est arrivé. Et quand il y a des livres dans les appartements, ils ont tué les gens sur place.
En tout cas, il n'y a pas eu que les fusillades, dont je ne pense pas que ça a été systématique quand même, mais en tout cas, il n'y a pas que les fusillades, les exécutions sommaires ne sont pas que les exécutions sommaires que j'ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire ce faux procès de quelques secondes. Hein. Il y a aussi des fusillades dans les maisons, dans les rues, etc. Qui ont été stoppés assez vite d'ailleurs par l'armée, parce que l'armée préférait des exécutions de masse bien organisées au désordre de l'exécution, vous savez, etc. On connaît ces processus. Les vrais crimes de masse sont ceux qu'on organise. C'est pas ceux qui sont faits dans la fureur, dans la suite de la fureur d'un combat. C'est ceux que l'on systématise et qu'on organise. C'est ceux-là qui sont importants. Même si la troupe avait été, comme vous l'avez dit, en partie mobilisée par cette image des communards hein, qui avait été fabriquée par la grande presse, etc.
J'ai une question que j'avais notée, que j'ai oublié de vous poser. C'est sur le processus constituant. Comment ça s'est passé après l'insurrection? Est-ce qu'il y a déjà eu des élections pour une constituante?
Une constituante, non, parce que une constituante, ça serait nationale et c'est pas leur idée. Donc leur idée, c'est on fait l'élection d'une assemblée parisienne. Donc,
comment a été déterminé le nombre d'élus, par exemple?
En proportion du nombre, ils ont pris, je pourrais vous amener les cartes, ils ont pris le résultat. Ah, ça, c'est le comité central de la garde nationale qui avait le pouvoir, qui a organisé ces élections. Et qui, le 28 mars, devant 200 000 personnes à l'hôtel de ville, pavoisé de drapeau rouge, hein. La commune c'est le drapeau rouge, le drapeau de la commune de Paris c'est le drapeau rouge, le drapeau des amis de la commune de Paris c'est le drapeau rouge, ce qui ne signifie pas qu'il soit contre le drapeau tricolore, hein. il y a des drapeaux tricolores dans la foule, et il y a des drapeaux noirs aussi, donc mais le drapeau dominant et le drapeau de la commune de Paris en tant que tel c'est le drapeau rouge. Donc eux, ils décident, le comité central de la garde nationale décide de passer la main hein, et d'organiser ces élections. Et le 28 mars, il y a cette foule immense que Jules Vallès décrit dans un magnifique article du Cri du Peuple le lendemain. Hein, son soulagement de cette flamme du peuple qui renaît, quoi, de cette foule immense qu'on n'y croyait pas. Vous ne croyez pas, ben oui, elle est là.
Il y a peut-être 10 ans, je suis allée avec les amis de la commune dans un autocar pour visiter tous les endroits avec quelqu'un comme un historien qui ont expliqué où on était passé. Oui. Et je suis prononcée une fois.
C'est parmi les activités de notre association. Il y a les conférences, il y a les expositions, il y a les manifestations, il y aura le 27 septembre la fête de la Commune de Paris, place de la Commune de Paris, c'est à la Butte aux Cailles à côté du siège de notre association. Et nous faisons ce qu'on appelle les Paris communards, qui sont des visites d'une demi-journée ou d'une journée entière, soit à pied, soit en car, et où on fait la visite des différents lieux de Paris, de l'hôtel de ville, de Montmartre, du Père Lachaise, etc., etc., où ont lieu les principaux événements de la commune de Paris. Donc ça, il faut contacter le siège de notre association. Là, on le fait plutôt en groupe. Hein. Alors, c'est très divers. Hein. On a eu des lycéens d'Aubervilliers, des lycéens de Marseille qui sont montés. On a des comités d'entreprise. On a des étudiants américains qui arrivent avec leurs professeurs pour faire la visite, etc. Hein. C'est très divers. Et ça marche bien. Donc, à ce moment-là, il faut contacter notre association. Évidemment, plus vous êtes nombreux, mieux c'est relativement mieux au niveau économique, quand même.
Sinon, on est sous le Second Empire, et puis il y a la commune. Donc je suppose que l'héritage de la Républicain, c'est 1789.
Pardon ?
On sort du Second Empire,
oui.
C'est un mouvement républicain.
Ah, la commune est fondamentalement républicaine, oui.
Je suppose que l'héritage, c'est 1789.
1789 et 1848 en partie, mais assez complexe.
Cette idée d'héritage, elle est quand même nouvelle.
C'est-à-dire que c'est l'héritage de la Révolution française, c'est l'héritage de 1789. Et on voit bien d'ailleurs, puisque même à un moment, quand ça va mal, ils créent un comité de salut public, qui reprennent le terme de 93. Hein. Ils sont au moins autant se réfèrent autant à 93 qu'à 89. Hein. Donc ils sont dans la tradition de la Révolution française, de l'aile la plus avancée de la Révolution française, hein, bien sûr. De 1848, de juin 1848, même si, mais c'est quand même, il y a une certaine défiance politique qui a commencé à se faire chez certains ouvriers, hein, parce que la répression de juin 48, c'est le fait de la Seconde République. Donc, il y a chez certains ouvriers une certaine défiance qui a pu se créer de la République. Après juin 1848. Enfin, ça reste quand même, à mon avis, secondaire par rapport à leur imprégnation de cette tradition, qui est aussi une tradition insurrectionnelle. C'est une tradition aussi révolutionnaire. On sait construire des barricades.
C'est la grande apparition du drapeau noir.
Surtout du drapeau rouge, hein. C'est massivement le drapeau rouge, il y a quelques drapeaux noirs. Les drapeaux noirs les plus nombreux, je peux vous dire que le jour où ils sont les plus nombreux, c'est le jour où les Prussiens rentrent dans Paris. Alors là, Paris est entièrement pavoisé de drapeaux noirs. Hein ? C'est le deuil. Mais l'origine du drapeau noir, c'est aussi une réaction à la tragédie. C'est pas l'apparition du drapeau rouge, il a déjà existé avant, mais c'est le drapeau que se donne la commune de Paris. Mais vous savez qu'en 1948, après l'insurrection de février, les ouvriers qui sont là, c'est-à-dire la première insurrection de 1848, celle de février 1848, qui fait chuter la monarchie de Louis-Philippe, les ouvriers qui sont là, qui ont fait une grande partie de l'insurrection, demande le drapeau rouge pour la République. Et Lamartine réussit à convaincre que le drapeau tricolore, c'est le drapeau justement de 89 et de 93, que donc c'est celui que doit se donner la République. Mais déjà, la revendication du drapeau rouge est présente en 1848.
À la commune, c'était une interdiction formelle ou il y avait des femmes qui ont essayé quand même de se présenter ?
Il y a eu, je crois, quelques femmes qui ont un peu essayé de se présenter, mais il faut voir que il faut pas s'imaginer le système électoral comme maintenant. Hein. C'est complètement différent. Alors d'abord, bon, ça c'est tout un aspect qui est clair. La plupart des ouvriers parisiens du milieu du 19e siècle étaient sur des conceptions assez traditionnalistes. Hein. Entre autres, beaucoup voyaient dans la femme la concurrence au travail. Hein. Concurrence qui était en partie réelle, c'est toujours les mêmes problèmes, hein, puisque effectivement les salaires féminins étaient plus de moitié pour un même travail inférieur. Et on voit bien comment le patronat, d'ailleurs, dans les manufactures, fait appel au 19e siècle au travail des femmes et des enfants. Alors c'est rejeté de la même façon, si vous voulez, c'est aussi monstrueux pour eux. C'est la preuve de la monstruosité du capitalisme, c'est qu'il fait travailler la femme et l'enfant. Ça, c'est vraiment monstrueux. Voilà, c'est comme ça pour eux. Et Donc on peut travailler encore à 8 ans, hein, à cet âge-là. En 1871, on peut travailler à partir encore à 8 ans. C'est plus 6 ans, parce que sous Louis-Philippe, on l'a interdit jusqu'à 8 ans, mais on peut travailler à 8 ans. Donc le capitalisme fait appel aux enfants dans les manufactures, dans les mines, et aux femmes dans les usines textiles, dans toute une série de choses. Et ça, c'est perçu pour eux comme un signe de surexploitation et de concurrence. Voilà. Et donc ces ouvriers ne pensent pas en termes de droit de vote aux femmes, c'est pratiquement absent. Mais par contre, les ouvrières, elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement actives pendant la Commune.
Elles n'ont pas amené cette question,
justement. On voit un peu à la fin, par exemple, dans les réunions de l'Union des femmes, dans quelques réunions de l'Union des femmes, il ne faut pas faire d'anachronisme, hein, on est en 1871, on n'est pas en 2008.
Est-ce que c'est pas...
Les femmes ont besoin de voter pour donner leur avis.
Ah, ça, c'est une autre question. Longtemps, des composantes du mouvement ouvrier, des anarchistes et d'autres ont pensé que demander le droit de vote des femmes, c'était un peu une question secondaire, bourgeoise, finalement, parce que la question, elle n'était pas de l'électoralisme. Et que donc, en fait, c'était... Bon, je crois que l'histoire a tranché que c'était pas une position très bonne. Mais voilà, en tout cas, dans cette époque... C'était pas vraiment posé. Ça affleure un peu. Certaines femmes commencent à le revendiquer sous la Commune. On voit qu'elles commencent à affirmer les droits civiques dans quelques réunions. Alors pour ce qui est des élections, il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de liste, il n'y a pas de liste déposée, il n'y a pas d'isoloir, ça n'existe pas. Tout ce qu'on a mis en place progressivement, les isoloirs, on ne dépose pas sa candidature à une mairie avant, ça n'existe pas. Tout ça, il n'y a pas de liste de paquets déposés, de tables, ça n'existe pas. Hein. On arrive avec son bulletin que des gens ont fait plus ou moins circuler, des listes qui vous ont été données, et qui circulent dans la presse, etc. Et on arrive avec et on glisse ça dans l'urne. Hein. Donc c'est pas du tout normalisé comme maintenant.
Donc on peut être candidat.
Ah, on peut.
Plusieurs endroits.
On peut être candidat dans. On peut se retrouver. Non, il y a des listes électorales.
Ah, il y a tout de même des listes électorales.
Il y a des listes électorales. D'accord. Il y a des listes électorales. Qui sont très utiles aux historiens.
La représentativité, là, les 94 élus, est-ce que déjà il y avait une pondération, une pondération à partir du nombre d'habitants?
Complètement, le nombre d'élus par arrondissement est exactement proportionnel à la population. Ah oui, ça, ils connaissaient leur Condorcet. Hein.
Comment ils ont pu croire que ça allait fonctionner s'ils restaient isolés comment ça a démarré? C'est parce qu'ils ont résisté à la capitulation face aux Prussiens, donc c'était une insurrection populaire, et est-ce qu'il y avait des gens derrière qui ont structuré un peu tout ça?
Disons qu'ils sont structurés, comme je dis tout à l'heure, ils sont structurés. Alors, au plan politique, il faut dire, ils sont pas très bien structurés parce que les sections de l'international, toutes ces choses-là, qui étaient assez vivantes à la fin du Second Empire, elles sont soumises à une répression très violente à partir de la guerre, même un petit peu avant et pendant la guerre, évidemment, vous savez, ils en profitent pour interdire toute activité des sections de la Première Internationale, des clubs, etc. Donc elles ont été beaucoup décimées et les Prussiens arrivent, enfin vous voyez, les gens s'en vont, les gens arrivent, tout ça, hein, c'est dans des conditions extrêmement, extrêmement dramatiques, des conditions un peu extrêmes, hein, c'est pas des conditions lisses, c'est des conditions extrêmes cette période. Et donc elles se reconstituent petit à petit, mais elles sont quand même assez fragiles pendant le siège Et même encore pendant la Commune, elles restent encore assez fragiles, les sections de l'international. Donc il n'y a pas une très forte structuration politique au niveau d'un parti ou d'une structuration politique. Ce qui est très fortement structuré, c'est par contre la garde nationale. Là, il y a une vraie structuration par des gens que personne ne connaît. Hein, qui sont là, qui ont été poussés dans leur bataillon, quoi. Voilà, hein, ils se réunissent, les 400 types du bataillon, et puis qui va être le délégué à la réunion des bataillons de l'arrondissement. Ben, on prend le plus... voilà, hein. Ben, vas-y, toi. Ben ouais, ouais, vas-y, bon, allez, j'y vais. Hein. Voilà, c'est ça, hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et puis après, ils élisent les officiers, puis après, ils élisent le colonel de l'arrondissement. Alors, c'est par exemple dans le 14e arrondissement, le colonel Henri, qui dirige la 14e Légion, ils appellent ça Légion, qui est élu, c'est un gars, il a 21 ans. C'est un jeune artiste peintre de 21 ans. Voilà, bon, bah, il devait avoir plein d'enthousiasme, le truc, je suis pas sûr qu'il était très, très capable de commander 4 ou 5 000 hommes. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est leur structuration. Et puis après, ils sont quand même assez bien organisés parce que ce comité central, il se réunit régulièrement, il se substitue progressivement au général qui devait commander la garde nationale et qui était lui nommé par le pouvoir. Et donc ils sont quand même relativement bien organisés, hein, ils ont des postes, ils y arrivent pas mal à ce niveau-là. Et puis le 18 mars, c'est quand même eux qui prennent la responsabilité d'étendre l'insurrection. Donc de dire, on se contente pas de garder les canons, mais on va... Alors c'est à la fois eux qui le décident et en même temps une insurrection populaire, parce qu'on apprend que les canons sont partis, donc automatiquement le réflexe du peuple de Paris dans ce cas-là, c'est on dresse des barricades. L'armée est là, donc on dresse des barricades, hein, ça c'est le réflexe immédiat. Et puis, il y a cette tradition de marcher sur l'hôtel de ville hein, qui est là depuis 89.
Et est-ce que c'est en chantant qu'on marche sur l'hôtel de
ville? Alors, on va s'arrêter. Alors, je termine. Et je termine par un peu, après j'arrête. Je termine donc. Et effectivement, ces gens-là, donc le comité central de la garde nationale, c'est une trentaine de personnes qui se retrouvent le soir à l'hôtel de ville. Et Vallès écrit ça, il dit, et tous les témoins disent, personne ne les connaît. Personne ne sait qui sont ces gens-là. Voilà. C'est des gens, personne ne les connaît. C'est même pas les figures un peu plus connues comme Vallès ou d'autres, ou Courbet, ou d'autres politiques un peu plus connues que vous connaissez plus du tout, comme Delescluze, etc. Mais qui avaient qui étaient des socialistes avancés à l'époque et qui étaient un peu connus. Non, c'est des gens. Personne ne les connaît. Ils sont là, et voilà.
Est-ce que c'est pas justement ce manque un peu de carrière qui a fait que...
En tout cas, ça a certainement que ça a joué hein, dans les causes de l'échec de la Commune. Après, donc, il y a plusieurs... il y a des tas d'interprétations possibles de l'échec. Il y a l'interprétation... qu'en ont fait certains aussi... que toute révolution, il ne faut pas l'envisager, il faut y aller à petits pas, etc. Hein. Bon, ce qui est compréhensible aussi, hein, parce qu'une saignée de 20 000 morts, c'est aussi grave. Il y a ceux qui en ont conclu qu'il fallait créer un parti structuré qui serait capable de conduire et d'organiser ce mouvement, etc. Hein. Donc bien sûr, après, il y a de multiples débats et héritages ils vont suivre la Commune de Paris et c'est aussi son apport.
On considère que le pouvoir avait préventivement maintenu Blanqui en prison lorsque la République a été proclamée.
Tout à fait. Oui, bah oui. En tout cas, mais Blanqui avait aussi fait des insurrections. Je ne sais pas si on démarre sur Blanqui, on ne pourra jamais changer. En tout cas, Blanqui était peut-être celui qui aurait le mieux organisé la Commune. mais jamais les Versailles n'ont voulu lâcher, même lorsque la commune a proposé de l'échanger contre l'archevêque que la commune avait arrêté. Et ils ont dit non, gardez l'archevêque, mais on ne vous rend pas Blanqui.